Voici les titres du journal.
La Haute École Pédagogique du Valais est désormais reconnue institution de niveau tertiaire à l'échelle nationale. Son co-directeur sera en direct avec nous. Le variant Omicron aura eu raison de tout son cœur. Prévu en mars initialement, le concert montreusien est reporté au mois d'août. Le musée du Vieux-Vouvry a une nouvelle conservatrice. Françoise Oberholzer sera remplacée par Amélie Genoux, une locale. Les Verts libéraux lancent 3 candidats dans la course au Conseil d'État. En ligne de mire, évidemment, la transition écologique. Le sport en basket, le BBC Montéchablais tient son match référence. Les Valaisans ont battu le 2e du classement en championnat hier soir. Et en football, certains matchs de l'Euro féminin 2025 pourraient se dérouler à Sion, au stade Tourbillon.
Et pour la météo, un temps nuageux pour aujourd'hui avec quelques éclaircies possibles sur la Riviera. Pour demain, dernier nuage en matinée et ensuite passage à un temps bien ensoleillé mais froid. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Joël Espy. Bonjour Joël.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Après 3 ans de procédure, la Haute École Pédagogique du Valais décroche son accréditation. Elle est à présent reconnue comme une institution de niveau tertiaire, et ceci au niveau national. Des entretiens ont été menés auprès de plus de 60 collaborateurs et étudiants. L'obtention de ce label a été annoncée ce matin. Et pour en parler, je reçois le directeur de la HEPVS, Fabio Di Giacomo, le co-directeur, pardon, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour.
Expliquez-nous alors un peu ce que signifie l'obtention de ce label.
Alors depuis l'entrée en vigueur en 2015 de la loi fédérale sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, l'accréditation institutionnelle est la condition à remplir pour obtenir le droit à l'appellation haute école pédagogique. Donc pour nous c'était une étape obligatoire pour continuer d'exister en tant que haute école et puis poursuivre les missions que nous avons de formation des enseignants et enseignantes, de recherche et de prestation de services. Donc ce label-là nous permet de continuer notre travail et d'être accrédité, comme l'on dit, selon la LEHE, la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles.
3 ans de procédure, on l'a dit, hein, ça a été éprouvant un peu.
Oui, 3 ans en plus en période de coronavirus, hein, donc il faut le signaler parce qu'effectivement, une procédure de ce type-là a plusieurs étapes. Hein, donc on a dû adapter la loi cantonale sur la HEP au droit fédéral. On a dû rédiger un rapport d'auto-évaluation qui mobilisait l'ensemble des parties prenantes de l'institution, autant le personnel, hein, toutes catégories confondues, mais aussi les étudiants, aussi les parties prenantes. Le département de l'économie de la formation et le service de l'enseignement nous ont beaucoup soutenu, hein. Et donc effectivement, on est content d'arriver au bout de cette procédure qui a pris beaucoup d'énergie en interne.
Parce que vous êtes sur plusieurs sites, hein, aussi, on peut le rappeler pour les gens qui connaissent très moins. Les experts du Conseil suisse d'accréditation qui ont mené l'évaluation, ils ont relevé de nombreux points forts, hein, on va le dire, hein, en examinant ce dossier de la HEPVS. Il y a un des traits de caractère, on peut dire, c'est l'humain au centre, c'est un peu votre marque de fabrique.
Alors oui, alors on était vraiment très heureux que cet élément ressorte, hein, pardon, puisque l'ensemble des HEP, l'ensemble des institutions mettent un petit peu en avant l'humain, mais nous, on en a fait vraiment un point fort. C'est dans notre vision qu'on a posé ces éléments-là, et on avait pris un certain nombre de mesures pour faire émerger ces éléments et l'humain au centre. Oui, à la HEP Valais, c'est effectivement un des points forts.
Bon, l'histoire n'est pas terminée, hein. D'ici 2 ans et demi, vous allez devoir améliorer vos infrastructures, la politique de développement durable, ainsi que des procédures liées aux conditions d'admission. Il y a du pain sur la planche, hein, on peut dire.
Oui, effectivement. Je dis souvent, c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début, hein. Donc, c'est un peu les règles du jeu d'une procédure qui s'occupe de l'assurance qualité. On analyse notre système d'assurance qualité. Et puis l'idée, c'est d'être une organisation apprenante qui continue à se développer, qui continue à s'améliorer. Donc dans ce sens-là, c'est évident. Et on savait qu'on allait avoir des recommandations et des conditions qui nous permettent d'avancer puis de nous fixer de prochains objectifs. Et les conditions qui ont été posées sont des conditions qui sont totalement réalisable dans le temps imparti, hein, les 30 mois, et d'autant plus qu'on travaille déjà sur ces éléments-là depuis des ans. On n'a pas attendu le rapport pour s'y mettre.
Hein. Voilà, 30 mois de préparation et une accréditation, donc, on va le rappeler, qui est valable 7 ans. Il faudra donc remettre l'ouvrage sur le métier en 2029. Merci beaucoup Fabio Di Giacomo d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes co-directeur de la Haute École Pédagogique Valaisanne. Il est parti. La main tendue valaisanne recherche des répondants bénévoles. Elle met sur pied une formation qui commence en avril prochain. L'an passé, près de 14 000 appels sont parvenus au numéro 143 du canton. La solitude, la souffrance psychique et les inquiétudes liées à la gestion du quotidien sont les principales problématiques abordées lors des entretiens téléphoniques. Les personnes intéressées peuvent s'annoncer depuis la rubrique contact du site valais.143.ch.
12 ans après son premier programme éducatif, Mike Horn revient avec un nouveau projet.
Nommé Pangaea X, le but est de montrer à la jeune génération qu'elle a les cartes en main pour changer les choses et conserver la planète. Le concept est simple, chaque année, l'aventurier lancera un challenge aux jeunes. Ils devront trouver des solutions en équipe afin de conserver la Terre. Avec comme récompense une expédition avec lui pour mettre en action les solutions proposées. Depuis son premier projet, l'ambition de Mike Horn n'a pas changé, malgré les dires de ses détracteurs.
Il y a 12 ans, quand on a lancé l'expédition Pangaea, les gens me disaient « Mais wow, c'est peut-être trop tôt, notre climat ne change pas autant, il faut plutôt attendre. » Et puis je dis « Non, il faut maintenant donner la responsabilité aux jeunes. » Ça, c'est il y a 10 ans. Et les gamins que j'ai amenés ont eu entre 15 et 20 ans. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, les gamins ont 25 et 30 ans. Et les gamins bossent. 80% ou 80% des gamins qui étaient dans les projets, les 200 gamins, travaillent dans ce domaine de conservation de notre planète. C'est les gamins qui bossent à Nestlé, c'est les gamins qui bossent chez BP, c'est les gamins qui bossent dans l'architecture, comment on emmagasine et récupère l'énergie du soleil. On a dit, mais en fait, trouve une solution, ouvre en fait vos esprits et suis pas ce que nous on a fait. Faut qu'on arrête de demander aux politiciens. Les politiciens n'ont rien à foutre de notre climat. Ils veulent juste être élus, ils veulent juste dire moi, parce qu'un politicien, c'est un politicien. Il n'y a rien concret qui sort. Ça veut dire que pourquoi nous, des individus, des publics, les gens, ne peuvent pas faire quelque chose?
Cette année, il s'agira de trouver des solutions en faveur de la protection de l'océan. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur ce projet de Mike Horn. Je vous appelle l'adresse internet. Donc c'est Pangaeax, pangaeax.org. Un sujet signé Léa Journeau. Les candidats ont jusqu'au 6 mars pour se présenter. Le conducteur à l'origine de l'accident ayant entraîné la mort d'un piéton vendredi dernier vers Olon a été identifié. Il s'est présenté dans un poste de police accompagné de son avocat. L'auteur présumé de cet accident est un habitant de la région âgé de 27 ans, indique aujourd'hui la police cantonale vaudoise dans un communiqué.
Trois Verts libéraux se lancent dans la course au Conseil d'État vaudois.
Deux femmes et un homme, Graciela Schaller, conseillère communale à Lausanne et chef du groupe au Grand Conseil. Jérôme de Benedictis, oui, j'ai bien lu pour une fois, syndic d'Échandant dans le district de Morges, ainsi que Chloé Pointet, présidente du Conseil communal de Jonny, avec un programme ambitieux basé sur la transition écologique et l'écologie, évidemment. La sortie du nucléaire, la pollution lumineuse dans le canton ou encore l'assainissement des bâtiments font partie des ambitions des candidats. Et pour Jean-François Chapuzat, vice-président du parti, la fraîcheur et la volonté des trois députés candidats est de bon augure pour la suite.
C'est un souffle, un vent d'optimiste qui se lance. Il y a une réelle opportunité et puis on va vraiment se donner les moyens de la saisir et de la concrétiser, ça c'est certain.
Mais ça paraît trop beau pour être vrai.
Rien n'est trop beau pour être vrai. Et puis, je pense qu'il faut être optimiste. De nouveau, c'est voir tous les changements qui nous attendent. Et Dieu sait s'il y en a comme une opportunité. Il faut savoir saisir les opportunités. Et voilà, on va jusqu'au bout de la démarche. Et on a la possibilité, j'en suis certain, de placer quelqu'un au Conseil d'État.
Jean-François Chapuzat répondait à Léa Journeau. Pour rappel, le premier tour des prochaines élections cantonales vaudoises est prévu le 20 mars. Évidemment, Radio Chablais sera sur le pont. Le Valais réduit les horaires de ses centres de vaccination. Le nombre d'inscriptions en forte diminution ne justifie pas une exploitation au maximum des capacités. Dans notre région, en revanche, rien ne change pour le centre de Colombey. Les Chablaisiens valaisans qui souhaitent se rendre à Rena doivent s'inscrire uniquement depuis la plateforme vaudoise.
Le coronavirus continue de mener la vie dure aux organisateurs d'événements culturels.
À tous en cœur, la manifestation montreusienne qui devait fêter sa 10e édition en mars a dû être reportée. Elle aura ainsi lieu les 26, 27 et 28 août prochains au 2M2C. Une annonce intervenue hier, soit deux mois avant le début du spectacle. Et même si la situation sanitaire venait à évoluer positivement, il n'était pas possible pour le comité de travailler dans ces conditions. Pierre Smets, fondateur et membre du comité de Tous en cœur.
Aujourd'hui, ce n'est pas tant le spectacle au mois de mars qui nous inquiète, bien qu'il y ait de grosses incertitudes sur ces dates-là, mais c'est tous les préparatifs. Tous en cœur, c'est plusieurs semaines de répétition, c'est 200 choristes dans une salle, et puis surtout, c'est de la convivialité. C'est une fête à l'art choral. Avoir 200 choristes qui vont passer des week-ends entiers, le masque sur le visage, à s'époumoner, à ne pas pouvoir faire des moments conviviaux comme les repas que l'on prépare à chaque jour de répétition, les apéritifs, enfin ces moments conviviaux, on rassemble les générations, nous priver de ça, très franchement, je vois plus très bien où est le plaisir. Et puis pour le public, on ne peut aujourd'hui plus garantir que le spectacle sera à la hauteur des attentes des gens.
Un spectacle qui se déroulera comme suit. 200 choristes accompagneront divers artistes tels qu'Isabelle Boulet, Alios ou Michael Jones. Artistes qui reprendront des chansons de Jean-Jacques Goldman. C'était un sujet de Thierry Nicolet. Le premier directeur du futur muséum cantonal vaudois des sciences naturelles est connu. Il s'agit de Nadir Alvarez, âgé de 44 ans, spécialiste en biologie de l'évolution et en écologie. Il prendra ses fonctions le 1er août prochain. Pour mémoire, le musée cantonal de géologie, le musée cantonal de zoologie, ainsi que le musée et jardin botanique cantonaux ne formeront plus qu'une seule entité au 1er janvier 2023.
Cela faisait des années que Françoise Oberholzer voulait passer le témoin à la tête du musée du Vieux Ouvry.
Une institution créée en 1944 et qui est l'un des plus anciens musées locaux du Valais. Aujourd'hui, c'est chose faite. Amélie Genoux, 30 ans, lui succède. Et Françoise Oberholzer ne cache pas qu'elle est heureuse de voir enfin débarquer une force jeune. Mais dans quel état celle qui a piloté le musée vouvrien depuis 1997 le remet-elle à celle qui lui succède? On entend sa réponse.
En état de dormance pour le moment, parce que j'avais arrêté d'organiser toutes ces expos qui m'avaient bien occupée pendant tant d'années. J'étais à bout de souffle et actuellement Amélie doit inventer une nouvelle façon de faire vivre le musée, d'interpeller les plus jeunes. Je ne pense pas que la collection de vieux objets soit digne d'éveiller des passions extrêmes.
Viscéralement attachée à ce village, où sa famille est installée depuis 1700 ans, Amélie Genoux se dit prête à relever le défi. Ses tiroirs regorgent d'idées. Surtout, elle ne craint pas l'aventure dans laquelle elle s'est lancée sur un coup de tête, en ayant conscience qu'il s'agit d'un grand saut dans l'inconnu qui l'attend. En tout cas, selon elle, la découverte de sa future fonction se passe très bien.
C'est assez cocasse, il y a plein de bonnes surprises. Heureusement, j'ai Françoise Oberholzer qui m'apprend, qui est très patiente avec moi, qui m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais la formation se fait en douceur, tout en transition en douceur.
À noter qu'Amélie Genoux ne vient pas du milieu de la culture. Elle n'a pas suivi non plus une formation d'historienne. Elle va donc apprendre sur le tas. C'était un sujet préparé par Yves Terrani. Ignacio Cassis se rend aujourd'hui à Berlin. Il y rencontrera son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, le chancelier Olaf Scholz et la chef de la diplomatie Annalena Baerbock. Il sera question des relations Suisse-Union européenne selon le département fédéral des affaires étrangères. La Comco, la Commission fédérale de la concurrence, a ouvert mardi une enquête dirigée contre 4 entreprises des cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et du Jura, spécialisées dans l'entretien des routes. Elles sont soupçonnées d'avoir coordonné leurs soumissions et leurs prix pour des adjudications publiques. Cela durant plusieurs années. Des perquisitions ont été menées et l'enquête dirigée contre le cartel de soumission pourrait durer 2 ans. Écoutez le directeur de la Comco, Patrick Ducret, sur l'ampleur de cette affaire.
C'est plutôt des routes locales, c'est d'entretenir les routes avec le gravillonnage, c'est plutôt les routes secondaires, c'est pas les routes cantonales ou nationales.
Ce sont les cantons, voire les communes qui attribuent ces travaux. On peut dire que ces cantons ou ces communes n'ont pas été assez attentifs dans l'examen des soumissions.
C'est difficile à dire, on est au début de l'enquête, on voit pas encore quel était le comportement des communes et des cantons. C'est plutôt des marchés qui sont pas très grands, mais pour le moment, comme on est au début de l'enquête, on voit pas encore l'ampleur, disons la gravité de ce qu'on regarde. On a mené des personnes perquisitions à plusieurs sites d'entreprises. Toute la procédure prend un certain temps.
Pourquoi ces cartels de soumission, c'est quelque chose de négatif?
Parce que normalement, ils mènent à des prix qui sont plus élevés comparé à une situation de concurrence. On a vu ça surtout dans les cantons de Grison, mais là, il y avait la construction, il y avait l'entretien des routes et tout qui était concerné.
En Suisse romande, c'est une première?
Pour le moment, c'est une première, oui. On n'a pas mené des enquêtes pour des cartels de soumission en Suisse romande jusqu'à présent.
Le directeur de la Comco, Patrick Ducret, au micro de notre correspondant à Berne, Serge Jubin, il n'a pas donné le nom des entreprises soupçonnées. Le CICR, basé à Genève, a annoncé hier avoir été victime d'une vaste cyberattaque. Les pirates se sont emparés des données de plus de 515 000 personnes extrêmement vulnérables. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge dans un communiqué.
Boris Johnson prend l'eau de toutes parts au Royaume-Uni.
Le Premier ministre britannique a encore été fragilisé hier par la défection d'un député et la rébellion de jeunes élus de sa majorité. Tous sont déterminés à le déloger en raison du scandale des fêtes à Downing Street en plein confinement l'année dernière. Boris Johnson s'est lancé dans un marathon d'excuses depuis plusieurs semaines. Et l'étau se resserre autour de Donald Trump dans le cadre de l'enquête sur ses agissements le 6 janvier 2021. La Cour suprême des États-Unis a ouvert la voie hier au transfert de documents vers la commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur son rôle dans l'assaut du Capitole. Il s'agit d'une défaite pour l'ancien président qui voulait bloquer l'accès à ces documents. En basket, Massagno est un adversaire qui convient très bien au BBC Montéchablais. Si les Tessinois occupent la deuxième place du classement en SB League, la formation valaisanne a su déjouer les pronostics hier soir à la salle du Reposieux. Devant un maigre public, les jaunes et verts ont su profiter des absences et du manque de rythme dans les rangs adverses. Au repos forcé depuis un mois, Massagno a vite cédé avant de complètement abdiquer dans le troisième quart-temps. De quoi permettre aux Chablaisiens de l'emporter 93-74 et d'empocher au passage une troisième victoire en championnat cette saison. Mais si les joueurs de la banlieue de Lugano n'ont pas tenu leur rang, le mérite en revient aussi aux Montésans. C'est du moins l'avis de leur capitaine Marlon Kessler.
On a commencé très fort, malgré le fait qu'on manque beaucoup de choses faciles près du cercle. Et non, on a vu qu'ils n'étaient pas très en forme, donc c'est normal. Après, nous, on a su prendre notre avantage. Nous aussi, on est un peu dans le dur au niveau du classement, donc on n'a pas fait de cadeau et je suis content pour l'équipe. Je trouve qu'on a été très très bon sur nos prises d'attaque et défensivement on était dans les plans, donc non, vraiment très très bien.
Et en plus d'offrir une performance solide durant 40 minutes, les Montésans ont aussi su exploiter leur temps fort, notamment avant et après la mi-temps, ce qui n'est pas arrivé souvent cette saison. Les impressions de l'entraîneur valaisan, Patrick Pembélé.
Réellement, je crois que j'ai déjà vu dans d'autres matchs, seulement qu'après ça, on a ces moments sinusoïdales où on monte, on a des piques et on descend bas. Et là, ce qui a été beau, c'est qu'on n'est jamais redescendu trop bas. On a réussi à garder cette constance. Donc je ne suis pas vraiment surpris, parce que je repense à ce run qu'on fait à Fribourg pour revenir dans le match, à Neuchâtel où on prend l'écart aussi. Seulement qu'en règle générale, on a vraiment des trous, et là on n'a pas eu, on n'a pas perdu les balles stupides, on n'a pas donné beaucoup de contre-attaques, et c'est pour ça qu'on prend le contrôle.
Des propos recueillis par Julien Traxel. Pour le BBC Montéchablais, le prochain match est prévu déjà samedi sur le parquet du BBC Nyon. Ce duel fera office de répétition générale avant la demi-finale de Coupe de Suisse qui opposera les deux équipes le 12 février à la salle du Reposieux.
En football, la Suisse est candidate pour l'organisation de l'Euro féminin 2025.
La ville de Sion, en collaboration avec le club, a depuis fait part de son envie d'accueillir de potentielles rencontres dans l'événement à Tourbillon. Un intérêt réciproque d'après l'Association suisse de football. L'ASF a jusqu'à fin mars pour déposer une demande formelle auprès de l'UEFA et jusqu'à octobre pour soumettre son dossier final de candidature. Le choix dû aux des pays organisateurs sera effectué à la fin de l'année. Tatiana Henny, directrice du foot féminin de l'Association suisse de football, croit aux chances de la Suisse, à condition que tout le pays tire à la même corde.
Un championnat d'Europe féminin, c'est pas quelque chose de petit, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça. C'est vraiment, c'est pas non plus comme un championnat d'Europe des hommes masculins, mais presque, avec des demandes énormes d'un point de vue de l'UEFA. Alors un stade qui va être sélectionné, ça doit être un stade de tout haut niveau, avec toutes les installations nécessaires pour la production de la télévision, pour les journalistes, les médias, pour les invités, pour les équipes, surtout avec une pelouse naturelle, et puis 100% parfait. Il y a aussi des choses légales, juristiques, pour que la Suisse, comme pays, et les cantons donnent tout leur support pour ce tournoi. C'est vraiment grand, et puis on peut faire ça seulement si tout le monde donne leur support.
Et cet événement, si la Lyon Suisse permettrait donc de valoriser le football féminin dans le pays, l'objectif est donc de pouvoir le mettre en avant, comme l'explique Tatiana Henny.
Absolument, ça serait énorme. Ça nous gagne 5 à 10 ans, parce qu'on doit changer la culture du foot en Suisse. On doit mettre le foot féminin et les femmes dans le foot sur le même niveau que le foot masculin. Et puis ça, normalement, c'est un changement de culture, ça prend 10 ans. Mais avec ce tournoi-là, peut-être on gagne 8 ans.
Des propos recueillis par nos confrères d'Euron FM. La ville de Sion et le club ont donc annoncé leur envie d'accueillir des rencontres de l'Euro 2025 féminin au stade de Tourbillon.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Allo Smart. Abonnement et réparation de smartphones, toutes marques avec pièces d'origine. Au centre Migros, M Central, à Montet, allosmart.ch.
Le temps sera nuageux cet après-midi avec encore possiblement des chutes de neige en montagne et puis aussi des éclaircies sur la Riviera. Il va faire au maximum 5 degrés en plaine, 0 à 1000 mètres et moins 6 à 2000. Pour demain, les derniers nuages en matinée avant le retour du soleil et un temps froid. Il va faire de moins 3 à 4 degrés en plaine, de moins 7 à moins 2 à 1000 mètres et de moins 10 à moins 8 à 2000.